Bonsoir tout le monde, comment ça va? Vous êtes dans GFP en direct. Édition de ce mardi après les festivités de Pâques qui ont été bien tranquilles. On n'a pas le choix tout le monde. Hein? GFP en direct, émission de radio en direct sur la web radio du centre-ville de Québec, du studio B sur la rue Saint-Jean. Et moi, je vous accompagne jusqu'à 18h. À 17h, il va y avoir la conférence de presse du gouvernement du Québec sur la situation au Québec de la pandémie. Donc, conférence de presse qu'on va diffuser en direct. Et moi, je vous accompagne avec les meilleurs succès radio de tous les temps sur radiofiatlux.tk. Et c'est Georges Fernand Poirier qui vous accompagne jusqu'à 18h en direct.
Dion in the Belmont too.
On appelle ça du Chicago Rock. Chicago Rock. Du rock de Chicago.
Let's go.
J'espère que ça va bien vous autres ce soir. Bon, j'arrive. Bon, OK, je viens de m'installer. J'espère que ça va bien vous autres ce soir. On est on est déjà le mardi et il y a une conférence de presse ce soir qui s'en vient. Et c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer, les nouvelles directives. Habituellement, quand ça arrive à cette heure-là... c'est jamais des bien, bien bonnes nouvelles. Mais en tout cas, on va passer à travers. Faut arrêter de s'en faire outre mesure.
Ma peine est légère quand le gazon est vert. Quand le gazon est vert, je vois tout à l'envers. Les pieds dans le vide, j'en fais pas un supplice. J'en fais pas un supplice tant que j'ai le bon tournevis. Moi je vis comme un fou. Sous le soleil doux, je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers, puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Et le temps passe. Loin de tous mes travers, loin de tous mes travers, et je sors de l'hiver. Les pieds dans l'abysse, je vis sans artifice, sans but et sans malice, tant que l'air est gratis. Moi je ris comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers, puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Je délaisse et souvent je lousse la laisse. Et le temps passe et des fois me dépasse et me perd dans l'espace et des fois.
Vous écoutez la seule radio indépendante du centre-ville de Québec. C'est Georges Fernand Poirier qui vous le dit, en ondes 24 heures sur 24.
<t'en> quart d'heure. Et pour semer la parole, inventa les frères pêcheurs.
Eh oui, sur radiofiatlux.tk, dans GFP en direct, vous allez entendre les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps. Et il y a juste du beau temps qui s'en vient. Fait que c'est des bonnes nouvelles, au moins il va faire beau. Et ce soir à 17h, ne manquez pas, on va écouter ensemble la conférence de presse du gouvernement du Québec sur les mesures sanitaires. On va écouter un bon vieux succès numéro 1, Radio Mutuelle.
Heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne, triste d'avoir manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On vit rien qu'au printemps, le printemps dure pas longtemps. Avraïda di, vradi, de l'an, hop de la de l'an, a de la de. Avraïda di, vradi, de l'an, hop de la de l'an, a de la. Assis sur le banc de mon tour rouge, je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour faire la fête. À qui appartient le beau temps, l'hiver, l'été durant. Avradidadi, vradi, dudulam, hop de la dudam, arut de la dudam. Avradidadi. L'été c'est tellement bon quand t'as la chance d'avoir assez d'argent pour voyager sans t'inquiéter. Pour le fils d'un patron, c'est les vacances. Pour la fille du restaurant, c'est les sueurs pis les clients. Avradidadi, vradi, dudulam, hop de la dudam, arut de la dudam. Avradidadi. L'hiver est blanc comme un nuage, mais ça évidemment dans le chalet près du foyer. Dans le fond c'est salissant pour risquer le chauffage. Y'a pas pire moment de l'année quand t'es pris pour tant d'été. Après trou creusé ma peine. J'ai vu le surintendant, je peux rien dire en attendant. Le jour où ça sera nous qui ferons la fête. Imaginez le printemps quand l'hiver sera vraiment blanc.
Pour la température, ça va être pas pire. On va avoir du beau temps pour les prochains jours. Donc, on prévoit même jusqu'à... On prévoit jusqu'à 18 degrés pour jeudi, en tout cas pour... Ouais, on va écouter ça. Bonne petite toune de Caïn. Et moi, je vous accompagne jusqu'à 18h sur radiofiatlux.ca.
Qui ont toujours raison. On se crève à l'ouvrage pour la paye des beaufs. On a la classe ouvrière, le cœur millionnaire. Et midi quelque part, que le diable l'emporte. Quand la soif nous pogne 40 ans plus tard, cherche-nous pas de ma belle.
Je partirais pour
Québec.
Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit en chantant ces jolies mélodies. J'ai passé une belle nuit
à Québec. Des beaux becs.
J'ai passé une belle nuit à Ottawa, en caressant, en tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt dans un bar en tôt. Je suis un Hells Angels à pied. Je roule la baie sur du papier. Je mange des hot dogs mais je bois du thé. Je suis un Satan's Choice raté. Pour faire comme les vrais robineux, je m'achète des beaux vieux habineux. Je suis un bum de bonne famille. Quand je vois sa main, je mange des gâtés. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur sur un chopper avec Aline pour Huxapine, avec Thérèse Fraise contre Fraise. Je partirais pour
Québec.
Si j'avais des lumières sur mon bac, je partirais pour
Québec.
Si j'avais plus de gasoline, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai les lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit. So when the twilight falls on the heights, I will light my lights for my sight. Et je roulerai. J'ai passé une belle nuit à Ottawa, en te caressant, en tenant dans mes bois. J'ai passé une belle nuit à Toronto. Mais si je me rappelle bien, ça fermait un petit peu trop tôt. Oh oui, mais si j'avais les ailes de Nantes, partirais pour
Québec.
Thank you.
Alors, restez avec nous autres. À 17h, on va diffuser la conférence de presse du gouvernement du Québec sur les nouvelles mesures sanitaires. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Habituellement, à cette heure-là, quand il y a une conférence de presse à cette heure-là, habituellement, c'est différent. Alors, on va analyser ça. À 17h. Et moi, je vous accompagne jusqu'à 18h en direct du studio B sur la rue Saint-Jean, à Québec, dans GFP, en direct.
See you.
Hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, cette une-là. Ça me tente de la réécouter. Ben oui. Hey, vous connaissez l'histoire du gars de la radio? Je pense qu'il travaillait à Radio Mutuelle. Je pense qu'il il a fait tourner 70 fois la même tonne, une après l'autre. Mais là, j'ai fait tourner deux fois. Hey, c'est Toto, là, dans les premiers temps. Là.
Just
Alors, dans quelques instants, la conférence de presse de François Legault, gouvernement du Québec, sur la situation de la pandémie au Québec et à travers le monde aussi, mais au Québec, et les nouvelles mesures qui pourraient être imposées, on verra bien. Vous êtes dans GFP en direct, Georges Fernand Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h sur Radio Fiat Lux. Aussitôt que la conférence de presse commence, on vous la diffuse. Alors, à l'instant même, la conférence de presse du gouvernement du Québec va commencer. Donc, on va se brancher, on va se connecter. Vous êtes à l'antenne de Radio Fiat Lux, la radio indépendante en direct du centre-ville de Québec.
Oui. Bonsoir tout le monde. Je veux d'abord vous parler de la situation en général, la situation de la pandémie, bien sûr, au Québec. J'ai eu la chance hier le ministre de la Santé, d'avoir une présentation de projection qui venait de la santé publique, de l'INSPQ, de l'INES. Ça va vous être présenté cette semaine, comme on le fait à chaque semaine. Et on peut voir, comme on s'y attendait, d'abord, une augmentation importante de la présence des variants dans les nouveaux cas. La difficulté dans les projections qu'on a pour les prochaines semaines, c'est qu'habituellement, on avait une situation au Québec où il y avait Montréal ou le Grand Montréal, puis le reste du Québec. Or, Ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est qu'il y a 4 régions, excluant Montréal, donc les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et l'Outaouais, où il y a eu une forte augmentation du nombre de cas. Puis je précise bien du nombre de cas. Pour l'instant, on n'a pas vu une forte augmentation des hospitalisations dans ces 4 régions, mais on peut penser que ça va venir dans les prochains jours, les prochaines semaines. Là, c'est une question presque que mathématique. Évidemment, on n'a pas attendu de voir l'augmentation du nombre d'hospitalisations pour agir. Dès la semaine passée, on a mis en place des mesures d'urgence dans ces 4 régions. Bon, maintenant, quand on regarde Montréal et les autres régions, de façon assez surprenante, on voit pas actuellement d'augmentation importante du nombre de cas. Mais, si on regarde ce qui se passe ailleurs, en particulier en Ontario, on se dit que c'est probablement une question de jour, question maximum de semaine. Oui, pour l'instant, on a résisté un peu plus longtemps qu'ailleurs, mais il y a un risque, selon les experts, qui est plus important cette semaine qu'il l'était la semaine passée, qui est une forte augmentation des cas, entre autres dans la région de Montréal. Et c'est pour ça qu'on veut aujourd'hui apporter des nouvelles mesures qui sont vraiment préventives. Il n'y a pas personne là, qui est capable de dire avec certitude où on va être dans une semaine, deux semaines, mais on veut vraiment agir de façon préventive en ajoutant des mesures, des restrictions dans les zones rouges et dans les zones oranges. Bon, la santé publique nous dit que les endroits qui les inquiètent le plus, ce sont les écoles, les sports, les lieux de culte, les maisons. Et donc, on a essayé, effectivement, de regarder les mesures qui devaient être mises en place. Évidemment, je l'ai répété souvent, puis je vais continuer à le répéter, le dernier endroit où on veut agir, c'est dans les écoles, parce qu'on veut autant que possible que les enfants restent à l'école. C'est important pour leur apprentissage, c'est important pour leur vie sociale, pour leur santé mentale, mais en même temps, faut voir ce qui est possible de faire comme compromis. Donc, dans les zones rouges, bon, on a nos 4 nouvelles régions, donc Capitale-Nationale, Outaouais, Bas-Saint-Laurent, puis Chaudière-Appalaches. Puis on a les régions qui étaient déjà en rouge, c'est-à-dire Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière et la Montérégie. Donc, j'annonce que dans ces zones rouges, à compter de lundi prochain, on va revenir à l'alternance en secondaire 3, 4, 5. Ça veut dire que les élèves vont aller à l'école une journée sur deux. Malheureusement aussi, la santé publique nous demande d'annuler les activités parascolaires, donc toujours à partir de lundi prochain. Puis à partir de jeudi cette semaine, on va aussi limiter les activités sportives à l'intérieur, va fermer les gyms, toujours dans les zones rouges, et on va limiter le nombre de personnes dans les lieux de culte à 25. Je suis toujours dans les zones rouges. Bon, peut-être un commentaire sur l'alternance secondaire 3, 4, 5. Évidemment, je m'attends à ce que certaines personnes nous disent « Ah ben, la semaine passée ou l'autre semaine avant, vous disiez le contraire. » Écoutez, moi, je préfère que la santé publique s'ajuste pour la santé des Québécois plutôt que de tenir mordicus à défendre une position parce que c'est la position qu'ils avaient choisie la semaine passée. Là. Donc, je trouve ça même jusqu'à un certain point courageux de la part de la santé publique de nous dire, écoutez, la semaine passée, on vous disait que c'était possible de retourner les secondaires 3, 4, 5 à temps plein, mais cette semaine, on pense que c'est trop risqué. Et en même temps, ben c'est un compromis parce que quand même ces ados-là, parce que dans ces années-là, c'est des ados, ben ils vont quand même pouvoir aller à l'école une journée sur deux. Dans les zones oranges, la santé publique nous donne une série de recommandations qu'on suit. Entre autres, il y en a deux qui sont importantes. On va mettre le masque obligatoire, même au primaire, dans les premières années. Je sais que certains parents étaient inquiets de l'impact chez les jeunes enfants, mais je peux vous dire que on le fait déjà dans les zones rouges, puis ça se passe très bien. Les enfants sont pas mal plus capables de s'adapter que ce qu'on pensait. Bon, puis pour ce qui est des lieux de culte dans les zones oranges, on va passer de 250 à 100. Et on arrête là, pour l'instant. Donc, pour l'instant. Par contre, il y a une autre mesure qui est importante de rappeler, c'est ce qui se passe dans les maisons. Bon, quand on a changé le couvre-feu de 8h à 9h30, on a vu une augmentation importante des rassemblements dans les maisons, comme si, parce que le couvre-feu était à 9h30 au lieu de 8h, c'était devenu permis d'aller faire des visites chez des amis, chez de la parenté dans les maisons. C'est toujours défendu. D'ailleurs, quand on regarde la semaine dernière, qui se termine dimanche, les policiers au Québec ont donné 3 fois plus de contraventions aux personnes pour des rassemblements illégaux dans les maisons, dans les résidences. Au total, ils ont donné 2 fois plus de billets, mais si on regarde juste la partie des contraventions dans les maisons, c'est 3 fois plus. Donc, et les policiers vont continuer d'être sévères sur ce qui se passe dans les maisons. Bon, on a jonglé, pour vous dire la vérité, avec l'idée de remettre le couvre-feu à 8 heures dans toutes les zones rouges. Mais en même temps, la santé publique nous dit, ben, il y a beaucoup de gens, les travailleurs d'abord, qui travaillent un peu plus tard. Il y a des gens aussi avec le printemps qui arrive, qui veulent aller prendre une marche. Mais, je veux vous dire qu'on n'hésitera pas, là. S'il y a une augmentation, par exemple, du nombre de cas dans les prochains jours à Montréal, on va remettre le couvre-feu à 8 heures. Je veux juste que les gens comprennent bien, là, on dit non, pas aujourd'hui, mais on n'exclut pas cette possibilité-là, puis on suit ça de jour en jour. Il y a quelques jours aussi, la santé publique, le directeur de la santé publique puis le ministre de la Santé ont envoyé des nouvelles directives aux santé publiques régionales pour dire, traînez pas, là, quand il y a un gym, un commerce, une entreprise qui respecte pas les consignes, ben fermez-les, ça presse. Faut évidemment pas attendre que ces cas-là se multiplient. Bon, peut-être vous dire en terminant, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, la situation est sous contrôle. Je pense que les décisions qu'on a prises rapides dans les dernières semaines font qu'actuellement, même dans les soins intensifs, la situation est sous contrôle. Par contre, on la regarde d'heure en heure et on n'hésitera pas à agir très rapidement s'il y a une augmentation du nombre de cas dans certaines régions, même s'il n'y a pas encore d'augmentation d'hospitalisation. Donc, on le voit là, le mois d'avril va vraiment être un mois critique, crucial. Je sais qu'on a un dicton, je ne sais pas si c'est juste au Québec, mais quand on dit en avril, on se découvre pas d'un fil. Mais là, on voit là que avril, ça va être le mois de tous les dangers. Donc, il faut vraiment se concentrer sur le mois d'avril. Pendant ce temps-là, ça permet à la santé de continuer de vacciner. Puis, je veux vous dire, on est très fiers de dire qu'actuellement, à part la Saskatchewan, le Québec est la province qui a le plus vacciné, qui a le plus donné de premières doses à des patients. On est à 18,5% des Québécois qui sont vaccinés, comparativement à 17,6% dans l'ensemble du Canada. Donc, ça va bien, puis ça va se poursuivre. Puis tantôt, je vais passer la parole à Christian, qui va vous annoncer des bonnes nouvelles, en tout cas, on l'espère. Et évidemment, là, je veux juste dire, on a entendu, puis on comprend les enseignants, les éducatrices en garderie, les personnes qui ont des maladies chroniques. On suit la liste de priorités de la santé publique, mais votre tour s'en vient. Là, tantôt, Christian va vous donner un peu plus d'informations de ce côté-là. Donc, je conclue en vous disant, Je comprends là, qu'il y a des gens qui s'imaginent que les mesures changent très vite. Je veux juste vous dire, là, si vous suivez le moindrement ce qui se passe en France, en Ontario, à peu près n'importe où dans le monde, c'est comme ça depuis un an. Puis Québec n'est pas sur une planète différente du reste du monde. On s'ajuste. Et quand les personnes ou certaines personnes disent, ben la décision que vous prenez aujourd'hui, vous auriez dû la prendre il y a deux semaines, il y a trois semaines, ben ça veut dire que pendant deux semaines ou trois semaines, les libertés qu'on a pu se donner, ben on n'aurait pas pu se les donner. Puis tant qu'à moi, une semaine de plus à avoir de l'école, à avoir certaines activités, ben c'est une semaine qui aide pour la santé mentale. Donc on se privera pas d'ajuster puis de donner des libertés quand c'est possible de le faire, mais de refermer quand c'est nécessaire. Je peux vous dire qu'on fait tous en avant ici notre gros possible. Donc, je vous dirais, s'il vous plaît, je sais que vous êtes tanné, mais encore un dernier effort. D'abord, quand c'est rendu votre tour, allez vous faire vacciner. Puis, entre-temps, soyez prudents. Puis, c'est pas seulement les personnes plus âgées, là, avec le nouveau variant. Même les jeunes peuvent être touchés, puis hospitalisés, puis avoir des conséquences graves. Donc, prenez ça au sérieux. Soyez prudents. Good evening, everyone. The variant forced us to act in four regions last week. At this moment, the rest of Quebec, including Montreal, is risen.
Au bon endroit le plus efficace possible. Je répéterai aussi que depuis le 15 mars, là, on donne maintenant les vaccins en prorata de la population proportionnelle. Je comprends des gens, parce que j'ai vu plusieurs réactions durant le week-end, là, que c'est frustrant de voir que des rendez-vous n'ont pas été comblés. Mais je veux être très clair que tous les vaccins qui sont reçus sont administrés dans les jours qui suivent leur réception. J'aimerais rappeler qu'on a donné, maintenant on a administré 1,6 million de doses depuis le mois de décembre. Donc, le vaccin, il ne dorme pas dans les congélateurs. On est à un moment charnière, puis je vais l'expliquer pour que les gens comprennent pourquoi qu'on est en train de changer de catégorie. Parce qu'on passe d'une vaccination jusqu'à maintenant qui était axée sur l'âge. Rappelez-vous, là, on était soit dans les CHSLD, soit dans les RPA, mais c'était vraiment dans les catégories de 85 ans et plus, etc. Et là, on est en train de passer d'une vaccination que j'appelle à risque de propagation. C'est très, très différent. Alors, quand les gens nous recommandaient de dire, ben écoutez, si les gens de 60 ans et plus ne veulent pas se faire vacciner, ben passez à 55. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça? La santé publique nous recommande très fortement, après avoir terminé les 60 ans, c'est de passer ce qu'on appelle aux catégories 8 et 9, notamment les catégories 8, c'est des gens qui ont des maladies chroniques, des problèmes de cancer, etc. Donc, c'est ce que nous allons faire. On a donné le temps nécessaire à ceux qui voulaient, qui avaient 60 ans et plus, particulièrement dans la région de Montréal, mais on va ajuster nos opérations, on le fait rapidement. D'ailleurs, la bonne nouvelle, je vous annonce aujourd'hui qu'on va ouvrir la vaccination aux 60 ans à l'ensemble du Québec, incluant toutes les régions, d'ici la fin de la semaine. Donc, on va être capable, avec les vaccins que je viens de référer, d'être capable d'ajuster toutes nos régions. Bon. Je veux rappeler qu'on doit vacciner selon les groupes prioritaires, puis ce qui est important, c'est de le faire dans le bon ordre. Et je pense, en fait, notamment de ce qu'on va annoncer dans les prochains jours, puis je reviendrai en point de presse demain avec le côté clinique, avec le docteur Arruda, mais aussi avec Daniel Paré demain pour vous donner beaucoup plus de détails sur ça. Je pense qu'il est important de définir aussi les travailleurs essentiels. Vous le savez, les travailleurs essentiels pour nous, ça inclut les corps d'emploi, comme par exemple les travailleurs qui ont des risques très élevés de propagation. Je pense aux professeurs, ça fait longtemps qu'on en parle, pour moi, on est rendu là. Les éducatrices, entre autres dans les garderies, les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, puis beaucoup, beaucoup les travailleurs communautaires. Donc, on est rendu là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, une autre bonne nouvelle. Toutefois, dans le fait qu'on a, on va recevoir des vaccins d'AstraZeneca, on les a reçus, ils sont maintenant en transit dans nos différentes régions. En parallèle avec ce que je viens d'expliquer pour les autres catégories qui vont rentrer, catégories 8 et 9, on va débuter la vaccination auprès des 55 ans et plus. Et ça va permettre... On va le faire à partir de jeudi. Là, je sais que vous allez avoir une tonne de questions, mais la bonne nouvelle qu'on a eue, c'est une recommandation très claire du CIC, de la santé publique, que l'on peut vacciner des personnes de 55 ans et plus avec AstraZeneca. Et on va le faire à compter de jeudi. Et ça, c'est plus de 350 000 vaccins qui vont être disponibles. Alors, demain, on rendra les sites qui vont être disponibles pour la vaccination. Comme je l'avais mentionné, on va être très clair que si quelqu'un veut prendre cet avantage-là, c'est-à-dire de ne pas attendre de passer après les catégories 8 et 9, ce qui aurait dû être le cas, les gens peuvent accélérer leur vaccination en autant qu'ils aient 55 ans et plus. Ils pourront le faire de façon bien informée dans des sites spécifiques, Stade olympique, Palais des congrès, un petit peu partout sur la rive nord, sur la rive sud, les sites vont vous être communiqués, les heures de vaccination. Et en plus, dans les pharmacies, chacun des sites sera bien identifié. La seule chose où je vous demande de comprendre, puis on va se parler encore une fois ce matin pour être très agile avec nos PDG, si le site de rendez-vous n'est pas prêt à compter de jeudi, parce qu'on est prêt à vacciner avec l'AstraZeneca, on va faire du 100 rendez-vous dans nos grands centres. C'est-à-dire qu'à compter de jeudi matin, puis je vous donnerai la liste demain en détail, mais commencez à y penser, vous pouvez prendre même du 100 rendez-vous dans nos grands centres à compter de jeudi matin. Je veux rappeler que les experts ont réitéré que tous les vaccins sont sécuritaires et efficaces, puis que les bénéfices dépassent largement les risques pour tous les vaccins. Et je vais vous dire avec un petit sourire en coin que j'en suis un bel exemple. Ça va faire presque 3 semaines que j'ai été vacciné. Puis mon premier ministre dit que je vais encore très bien. Alors, il y a juste mon Wi-Fi qui fonctionne pas, mais ça, c'est d'autres choses. Alors, j'aimerais rappeler qu'il faut continuer à penser en dehors de la boîte. C'est ce qu'on a fait pour la vaccination, montrer notre agilité. Quand des fois, on a des petits glitches, je vous le dis, j'ai trouvé ça difficile en fin de semaine, d'avoir des gens là qui allaient pas prendre leur rendez-vous ou qu'on rendrait des rendez-vous qui étaient disponibles, qui n'étaient pas pris. J'ai trouvé ça difficile. Une bonne discussion assez forte avec nos PDG ce matin. C'est pas du tout leur faute. Eux autres, on leur avait demandé de rendre des rendez-vous disponibles. J'apprécie énormément le travail qui est fait. On va garder le cap. On va s'ajuster comme on le fait depuis le début. Puis je veux qu'on continue d'être les meilleurs au Canada. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a 2 micros. On va se limiter à une question, une sous-question par journaliste. On va débuter avec Véronique Dubé de TVA Nouvelles.
Bonjour. On a donc entendu par rapport au gym, par rapport au lieu de culte. Il suffisait durant le week-end d'aller se promener dans les commerces pour constater que les règles n'étaient pas nécessairement respectées. Est-ce que vous, ça vous inquiète, cet aspect-là? Puis,
Écoutez, c'est clair que dans les commerces, il y a ce qu'on appelle une volumétrie, le nombre de personnes qui sont accessibles, pas de flanage à l'intérieur des commerces. Et comme on l'a dit tantôt, on a demandé à nos directeurs de santé publique, dans le contexte du variant et la vitesse à laquelle ça se propage, puis que ça devient plus compliqué aussi rapidement le nombre de cas, nos directeurs de santé publique, s'ils observent que des mesures sont pas prises en compte, tels que respectés, pourront fermer l'établissement pour 7 jours. Ils vont enquêter. Si c'est de la transmission, ça va être pour 21. Donc, ça fait partie des choses qu'on va regarder aussi en termes de respect des consignes.
Maintenant, à la lumière de ce qui arrive, est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été plus sévère mercredi, donc à la veille du congé de Pâques, en sachant qu'il y a eu vraiment 3 fois plus de rassemblements dans les maisons?
Bien, comme je le disais, tantôt, pour l'instant, si on regarde, par exemple, Montréal, qui est une région très importante, il n'y a pas d'augmentation de cas, mais on ajoute des mesures. Donc, on est vraiment devant la parade. Puis quand on se compare à d'autres, on est content d'être devant la parade, puis on veut continuer d'être devant la parade. Donc, je pense qu'on a agi rapidement dans les 4 régions où il y avait des problèmes dès la semaine passée. C'était un peu surprenant que ça soit ces 4 régions-là, avant même Montréal, mais on a agi tout de suite. Puis pour l'instant, on est en contrôle dans les hôpitaux, incluant dans les soins intensifs, ce qui est loin d'être le cas quand on regarde ailleurs.
Henri Ouellet-Vézina de La Presse.
Oui, bonjour. Ma première question serait pour vous, M. Legault. À la lumière de ce que vous annoncez aujourd'hui, le retour de certaines consignes en zone rouge, est-ce que vous pensez qu'on est... Vous êtes peut-être allé trop vite avec les allègements que vous avez proposés. Puis, est-ce que vous avez des chiffres précis sur, quand vous dites on pourrait aller plus loin, on pourrait resserrer encore davantage, avez-vous des caps ou des objectifs précis qui feraient en sorte que, oui, en fait, effectivement, on resserrait davantage en Grand Montréal?
Bien, écoutez, essentiellement, ce qu'on regarde, là, puis je disais, on le regarde d'heure en heure, région par région, c'est le nombre de cas puis le nombre d'hospitalisations. Pour l'instant, ça ne bouge pas beaucoup du côté de l'hospitalisation. Ça a bougé du côté des cas dans 4 régions, puis là, on était très sévère dans ces 4 régions-là. Donc, je pense que, comme partout ailleurs sur la planète, on ouvre, on ferme. On aurait pu dire l'année passée, au printemps, on ferme tout pour 1 an. Comme ça, on n'aurait pas joué au yo-yo. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'activités qu'on a pu avoir. Et c'est la même chose, même quand on regarde le mois de février et mars, on était capable d'avoir des enfants à l'école. On a été capable d'avoir des activités sportives et autres pour nos jeunes puis nos moins jeunes. Maintenant, là, on voit que le variant est plus présent. Et là, on a une recommandation de la santé publique d'agir maintenant. Ce qu'on n'avait pas comme recommandation la semaine passée.
Peut-être, François.
Oui, vas-y.
Peut-être une chose que j'aimerais rajouter, je pense que les gens suivent beaucoup, là, juste pour compléter le point du premier ministre sur ce qu'on suit à toutes les heures, les hospitalisations et les soins intensifs. Vous vous souvenez, vous avez rencontré quelquefois le docteur O'Patterney qui est dans notre équipe. Le changement qu'on fait aujourd'hui, puis vous l'avez peut-être noté dans le sommaire qu'on publie à tous les jours, on a été obligé de baisser notre nombre de lits en soins intensifs d'un maximum qui était disponible de 380, on l'a baissé à 300. Puis cette raison-là, c'est qu'on a de moins en moins de personnel d'infirmiers et d'infirmières qui peuvent supporter les soins intensifs. Fait que c'est une raison de plus en ce moment, là, puis particulièrement à Montréal, ça veut dire qu'on peut être très proche de cette ligne-là qu'on veut pas traverser. Alors, je vous le dis, là, ce matin, on a été obligé de reviser notre chiffre, puis ça nous rend encore plus prudent de dire si jamais les soins intensifs se mettaient à augmenter rapidement, ben il va falloir avoir d'autres mesures.
Ma deuxième question serait sur la vaccination, peut-être plus pour M. Dubé. Corrigez-moi si je me trompe, le Québec, là, depuis une semaine, a reçu à peu près de 800 000 doses de vaccins. Nous, on a vacciné à peu près moins de 300 000 personnes dans la même période. Donc, je sais que vous en avez parlé tantôt, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que c'est parce qu'on n'était pas prêt à recevoir autant de gens ou parce que, bon, vous n'aviez pas encore déterminé qui allait passer?
Bien, il y a trois raisons, puis je suis content que vous posiez la question parce qu'on va clarifier ça tout de suite. Premièrement, les doses, quand vous dites qu'on reçoit dans une semaine, là, les doses dont on parle, que ce soit l'AstraZeneca, qu'on a reçu le 2, le 3 pour Moderna, puis Pfizer, le 4, on les reçoit jamais une journée, puis on peut commencer le lendemain. Le Québec, c'est grand, puis il faut aller en région. Donc, il y a toujours un temps de transit pour chacun de ces différents vaccins-là. Moi, ce que je regarde plutôt, c'est est-ce qu'on est capable, puis prenons l'exemple le plus simple, le Pfizer, quand on le reçoit, c'est 230 000. Là. Puis ça, c'est facile, ça va être 230 000 encore pour le prochain mois. Est-ce qu'on est capable de le vacciner dans 5 à 7 jours? La réponse est oui. Quand vous voyez qu'on fait une journée normale ces temps-ci de 40 42 000, c'est parce qu'on passe le Pfizer comme il est prévu. OK? La seule chose qui arrive cette semaine, puis c'est pour ça que ça fait effectivement 700 000 au total, c'est Moderna. Moderna, c'est la première raison. Il est arrivé en retard un peu, là, il est arrivé, faut l'envoyer aux pharmaciens, mais les pharmaciens, ils en font 100 par jour, c'est pas comme le stade olympique, donc il faut envoyer ça à 350 pharmaciens à Montréal, puis là, on rouvre encore plus. Donc, c'est une deuxième raison où c'est un peu plus long, mais une fois qu'il est rendu, pour on vaccine. Troisièmement, AstraZeneca, 350 000 doses. Ça, AstraZeneca, il fallait avoir l'autorisation de santé publique pour tout ce qui est arrivé à AstraZeneca, d'être capable de faire. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui qui va être disponible à compter de jeudi matin. Puis même, c'est pour ça qu'on a expliqué qu'on va le faire sans rendez-vous. Il y aura peut-être quelques files d'attente, mais je pense que les gens qui veulent accélérer vont être prêts, puis on va trouver un système de billetterie en attendant. Chaque journée est importante. Donc, les 700 000, là, c'est une longue réponse, mais c'est arrivé à différentes dates, puis il faut les amener en région.
Merci.
Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles.
Bonjour à vous trois. Monsieur Dubé, juste faire un suivi là-dessus, là, sur les 740 quelques mille doses que vous avez de disponibles actuellement. On n'a jamais eu ça de disponible jusqu'à présent.
Puis on est très contents.
On est tous heureux. Oui. Sauf que là, je ne suis pas un expert en mathématiques, là, mais 700 000 doses pour les 7 prochains jours, disons, c'est une moyenne de 100 000 doses. Là, on ne s'est jamais rendu à peu plus que 50 000. Est-ce qu'on pense être capable, demain, après-demain ou cette semaine, d'atteindre un niveau, disons, de vaccination de 100 000 doses par jour? À quel moment ça va commencer à avoir des gros chiffres comme ça?
Bien, le premier ministre n'a pas posé exactement la même question ce matin.
On n'est pas arrangé. Hein?
Je ne suis pas arrangé avec vous. Moi, j'ai dit, j'espère que jeudi, vendredi, je vais pouvoir faire 70 75 000 doses. Mais j'ai trois composantes. Je reviens, le 40 000 de Pfizer, là, il est facile. Après ça, Moderna, les pharmaciens étaient un petit peu en retard. Pas de leur faute, le vaccin. Moi, je pense qu'on va aller le chercher. Maintenant, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire avec des stratégies différentes. Mm-hmm. Puis AstraZeneca, ben, je vais vous dire, un 100 rendez-vous au Stade olympique, au centre de foire à Québec, à nos grands centres, on est capable d'en faire 20, 30, 40 000. Vous l'avez vu, là, nos centres sont capables de faire deux fois, trois fois. Les gens nous disent, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne? Mais on n'a pas de vaccin. Là, on va être capable de prouver que la machine est là, puis elle est capable. Moi, je pense que jeudi, vendredi, on devrait avoir des bonnes nouvelles. Puis c'est pour ça qu'on rentre le 100 rendez-vous à compter de jeudi matin.
Pour M. Legault maintenant, il faut revenir sur les plages de vaccination non comblées. Votre ministre a dit que ça a été très difficile de voir ça en fin de semaine. Je pense que l'ensemble de la population est un peu indignée. Là. Vous avez vu les réactions. 5 000 rendez-vous en fin de semaine non comblés, mais semble-t-il que ça se passait comme ça depuis plusieurs jours, au moins deux semaines. Au total, il y en a combien de ces plages de rendez-vous-là qui n'ont pas été comblées. Vous, vous avez réagi comment en fin de semaine en voyant ça? Et quelle est la façon de vous assurer que ça ne se reproduira plus, que chaque rendez-vous sera donné, même si c'est à 17 heures en fin d'après-midi, qu'on trouve quelqu'un pour recevoir cette injection-là?
Bien, je pense que Christian a bien expliqué la situation. D'abord, c'est important, là, quand je lisais certains articles en fin de semaine, ça donnait l'impression qu'on avait perdu 5 000 doses, qu'on avait jeté dans les poubelles. Là. On n'a pas perdu aucune dose. Maintenant, c'est pas simple, parce que il y a un ordre de priorité à suivre. Puis comme l'expliquait Christian, faut faire les 60 ans avant d'aller faire les travailleurs essentiels puis les malades chroniques. Tu sais, je vois des gens qui disent, ben voyons donc, c'est simple, ouvrez pour les 55 ans. Ben, je m'excuse, ça respecterait pas l'ordre de priorité de la santé publique qui tient compte justement des risques associés aux différentes situations que vivent les Québécois. Donc, on essaie de suivre ça. Par-dessus ça, il y a l'AstraZeneca qui s'applique juste aux 55 ans. Mais là, Christian, une bonne idée de dire, ben là, on va dire aux gens, c'est AstraZeneca, là, il n'y aura pas de cachette. Ceux qui veulent 55 ans et plus avoir l'AstraZeneca, ben il y aura comme une file parallèle. Mais c'est tout ça qui est compliqué à mettre en place. Mais moi, je suis pas inquiet, là, connaissant Christian, que d'ici quelques jours, on va enligner ça. Mais il faut suivre l'ordre de priorité. Moi, je pense que on a fait le choix de dire les personnes les plus vulnérables se font vacciner en premier. Ben c'est pas vrai qu'on va vacciner une personne de 55 ans avant une personne qui a le cancer ou un enseignant qui a des risques ou une éducatrice en garderie qui a des risques. Donc c'est tout ça là qu'on essaye là parce qu'on se fait accuser de pas respecter l'ordre de priorité si on agissait autrement.
Exactement.
Nora Lamontagne, Journal de Montréal.
Oui, bonsoir. Je vais insister sur la vaccination, moi aussi. Je voulais juste une précision. Donc, si on compte respecter l'objectif de vacciner tous les Québécois d'ici le 24 juin, on devrait avoir environ 49 000 personnes qui sont vaccinées par jour, ce qui n'est pas le cas, en tout cas, ce qui n'a pas été le cas ou presque depuis le début de la campagne de vaccination. Là, vous semblez annoncer des hausses de vaccination pour les prochains jours, les prochaines semaines. Mais je me demande, est-ce que l'objectif du 24 juin sera réellement atteint? Et si oui, comment est-ce qu'on s'y prendra?
Je répondrai au que oui. deux choses. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai dit, mars-avril, en bas de la moyenne de 50 000, mai-juin, au-dessus de 50 000. On a même réussi à être au-dessus de 50 000 dans des journées en mars. Donc, parce que il y a des semaines qu'on va recevoir, comme cette semaine, 700 000, puis il y a des semaines en mai qu'on va recevoir peut-être même plus que 700 000, particulièrement en juin. Donc, moi, je vous le dis, là, il reste 79 jours, incluant aujourd'hui, puis il me reste 3,7 millions de doses à faire d'ici le 24 juin. Faites la moyenne. À chaque fois que je suis au-dessus de 44 000, je suis très content, puis quand je suis en bas, je suis pas content. Alors, donc, c'est très simple. À date, on suit exactement notre plan, puis tant mieux cette semaine si on peut avoir des journées à 60, 65 000 et plus, parce qu'on n'est même pas rendu encore en mai et juin. Je vous annonce aussi que cette semaine, c'est une autre très bonne nouvelle, mais je vais m'en garder un petit peu pour les prochains jours, on a eu des résultats excellents de la réaction des entreprises. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que non seulement là, on a ajouté les pharmaciens, mais d'ici quelques jours, on va vous publier une liste d'entreprises qui ont répondu, qui vont venir nous aider. Fait que les semaines, quand on va être rendu au mois de mai pour au mois de juin, où il va falloir faire 70, 75 000 par jour, on va avoir toutes les ressources pour le faire. Je vous en reparlerai jeudi de cette semaine.
Pour ce qui est des zones où les mesures d'urgence ont été appliquées depuis la semaine dernière, la fermeture des commerces non essentiels, le retour du couvre-feu à 20 heures, est-ce que vous êtes déjà en mesure de dire aux citoyens de Québec, Lévis et Gatineau et quelques endroits en Beauce que ces mesures seront prolongées au-delà de lundi prochain? Est-ce qu'elles pourraient être maintenues tout le mois d'avril, par exemple?
Bien, c'est pas ce qui est visé. Il faut comprendre que la mesure d'urgence, c'est une mesure choc temporaire. On ne s'attend pas à avoir son effet immédiatement. Donc, c'est une chose. Mais c'est clair qu'après avoir passé dans une mesure choc, on va se retrouver à, je veux dire, tout est possible dans la vie, là, mais à 98 % des chances en zone rouge, dans le nouveau rouge renforcé. Donc, vous comprendrez que ça veut dire que, c'est-à-dire que les gens qui étaient, par exemple, à l'Orange à Québec, qui sont passés en mesure d'urgence, au lieu de revenir à l'Orange, ils vont aller en rouge.
C'est ce qui est prévu actuellement à partir du
12 avril. Oui, je vous dis bien honnêtement, là, à moins qu'il y ait un miracle et tout d'un coup, ce soit complètement nettoyé, ça ne ferait pas logique de revenir à l'Orange parce qu'on sait que de 10 jours, c'est un traitement choc, mais ce n'est pas un traitement qui va tout faire abaisser tout d'un coup. Là.
Merci.
On va passer à Aimé Lemieux, Radio-Canada.
Monsieur Legault, vous avez dit tout à l'heure que ce qui inquiète particulièrement, c'est les écoles, les sports et les lieux de culte. Mais ce qu'on observe dernièrement, c'est que c'est dans les milieux de travail où il y a le plus d'éclosions. Alors, est-ce que vous envisagez des mesures pour les milieux de travail qui les ciblent particulièrement? Parce qu'il me semble qu'on entend moins parler de ce volet-là aussi dans vos conférences de presse et tout ça.
Bien, je ferai le parallèle avec les secondaires 3, 4, 5, mais là, on demande que le télétravail soit obligatoire dans toutes les entreprises. Donc, évidemment, ça aussi, on va s'assurer que ça soit respecté avec et la santé publique et la CNESST.
Et là, le télétravail obligatoire, c'est à partir de quand, pour qui, en zone rouge, tout ça, juste avoir les détails de ça aussi?
Bien, c'est le cas, mais je vais vous dire bien honnêtement, c'est le cas actuellement, le télétravail est obligatoire en zone rouge, et donc il va être renforcé. Et dans les milieux, parce qu'il faut comprendre que c'est pas tous les employés qui peuvent faire du télétravail parce qu'il faut faire de la production et autres, mais on va s'assurer que les mesures soient appliquées. Si les mesures sont pas appliquées, la CNES, le directeur de santé publique va pouvoir intervenir. Oui, il y a des éclosions dans différents milieux, vous avez tout à fait raison, mais elles sont souvent plus petites en termes de nombre de cas comparativement à ce qui peut se passer dans une école, comme tout récemment, il a fallu fermer plusieurs classes et à cause du problème de fonctionnement, même fermer l'école au complet.
Et je reviens au fameux yo-yo, là, si vous me permettez une autre question. Je reviens au fameux yo-yo des mesures sanitaires. Pourquoi des décisions contradictoires, notamment avec les écoles secondaires, tu sais, qui ont rouvert la semaine passée, qui retournent en alternance école-maison? Puis, est-ce que vous vous inquiétez pas du fait que ça va peut-être miner ou effriter l'adhésion du public dans le respect des consignes sanitaires?
Ouais. Bien, je commencerai en vous disant deux choses. Première chose, si vous regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde, c'est comme ça à peu près partout dans le monde. Parce que il y a eu 3 vagues et évidemment, on aurait pu, dès la fin de la 2e vague, laisser tout fermer au cas où il y a une 3e vague, ou on avait le choix de donner un peu de liberté pour un certain nombre de semaines. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit la santé publique. Puis, comme je le disais tantôt, c'est aussi clair que ça, la semaine passée, la santé publique nous disait on peut ouvrir les secondaires 3, 4, 5 à temps plein. Puis cette semaine, la santé publique nous dit on est mieux de ne pas ouvrir à temps plein les secondaires 3, 4, 5. Je pourrais me choquer puis dire ben voyons, vous dites le contraire la semaine passée, mais moi j'accepte le fait que plutôt que d'être entêté puis dire non, je me contredirai pas, bien, on s'ajuste selon l'évolution, entre autres, des variants. Puis, bien, tant mieux si on a eu une semaine de plus ou 2 semaines de plus où les étudiants ont pu être à temps plein. Mais en même temps, vous devez constater là, qu'on choisit la moins pire mesure. Tous les enfants des autres années, au primaire pour secondaire, vont être à temps plein à l'école. Les ados, pour qui c'est un peu plus facile de faire de l'enseignement à distance, vont quand même être à l'école une journée sur 2, puis on pense que comme ça, c'est un équilibre entre l'apprentissage nécessaire, mais aussi être capable de contrôler les éclosions dans les écoles.
Bien, je voudrais peut-être ajouter quelques éléments. Là. Premièrement, faut pas oublier qu'à peu près 3-4 semaines, les gens réclamaient des assouplissements parce qu'ils disaient on va décrocher, on n'est plus capable de le faire. Fait que ça, les gens ont tendance à oublier ça, mais c'était ça que le constat. Et les gens nous disaient à être trop sévère, vous allez faire débarquer les gens. Deuxièmement, au Québec, nos mesures sont pas mal plus sévères qu'ailleurs. Là. Je veux juste être clair avec ça. Là. On a l'impression qu'on a beaucoup allégé, mais dans les faits, nous, on a un couvre-feu, ce qui n'existe pas ailleurs. On a interdit les rassemblements à l'intérieur, alors qu'en Ontario, dans leur palier gris, ils pouvaient s'assembler à 5. Donc, l'impression qu'on a, qu'on est mou ou qu'on allège trop, on part d'un niveau de restriction qui est assez élevé. Et, à un moment donné, il faut prendre en considération les effets pervers des situations. Puis la donne ici, là, où il faut être agile, c'est les variants. Puis on le savait que les variants, on savait qu'en ouvrant les écoles en alternance, puis tout ça, on allait avoir plus de cas. Ce qui est merveilleux, à Montréal, on reste stable, puis ça l'a flambé à Québec, puis etc. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On agit de façon chirurgicale là où il y a un problème. Fait que c'est un équilibre qui n'est pas facile, je peux vous le dire, là. C'est qu'on serre trop, le monde débarque, on allège, il y a aussi le comportement des gens. Quand on vous dit « pas de rassemblement à la maison », bien, ça veut dire qu'à part qu'il ne devait pas y avoir des rassemblements. S'il y en a eu, c'est pas nous qui avons été trop mous, c'est que les gens n'ont pas non plus adhéré. Puis, je veux pas écœurer la population, je comprends que les gens sont fatigués. Mais ça, je trouve ça important. Puis, il y a un dernier message que je veux porter à votre attention, avec un autre message, c'est pas le temps actuellement de ne pas...
Radio Châtelet. Eh oui, c'est comme dans le conte Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Dans l'allumeur de réverbère, la consigne, c'est la consigne. J'allume et j'éteins. Vous êtes dans GFP en direct. Je vous souhaite une belle soirée et je vous donne rendez-vous demain matin, 8h AM. Georges Fernand Poirier qui lève son chapeau. À demain, 8h AM. Salut. La radio Fiat Lux planétaire en direct du centre-ville de Québec. Vous êtes dans GFP en direct. Georges Ferrand Poirier au micro. Et je vous accompagne jusqu'à
la web radio fiatlux.ca.
Avec les meilleurs succès radio numéro 1 de tous les temps. Passez une belle soirée.
Aéro.